semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 18 janvier, nous nous retrouvons pour notre revue de 7 jours d'événements avec bien sûr les reportages de la rédaction. Nous partirons par exemple pour les États-Unis, l'Iran, la Russie et la région du Sahel, évidemment. Notre invité Philippe Moreau-Desfarges, un spécialiste reconnu des relations internationales. Il vient de publier une histoire mondiale de la paix. Une semaine d'actualité donc, un magazine que vous pouvez retrouver sur votre moteur de recherche préféré, sur le site de la radio www.rfi.fr, l'application RFI Pure Radio et à la page Une semaine d'actu de Facebook. Bonjour Philippe Moreau-Desfarges.
Bonjour Pierre-Edouard Deldic, bonjour. Et
je suis très heureux de vous retrouver à ce micro. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de faire une émission ensemble. Et j'ai profité de la publication de votre dernier livre en date, Une histoire mondiale de la paix, pour que nous prenions rendez-vous et que nous fassions cette émission ensemble. Alors, vous avez été diplomate, chercheur à l'Institut français des relations internationales. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages qui font autorité. Je ne vais pas les citer parce qu'on passerait l'émission à les commenter. Et ce livre sur la paix montre, on va y revenir à cette question de la paix, que vous considérez que la période que nous vivons, et vous avez suffisamment de recul, je peux le dire, est déterminante.
Ah oui, c'est une période, il y a une rupture qui se produit. Et je dirais cette rupture, je voudrais l'exprimer en quatre chiffres. En 1800, nous sommes 1 milliard d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes 7 à 8 milliards d'habitants. Et quand je suis né en 1943, nous étions à ce moment-là 2 milliards et demi d'habitants. Maintenant, nous sommes 8 milliards d'habitants. Vous voyez la progression spectaculaire. Mais il y a deux autres chiffres. Si vous prenez 1800 et vous mettez le produit mondial brut en 1800, il est de 100. Aujourd'hui, le produit mondial brut est de l'ordre de 1700 à 1800. Ça veut dire que la capacité des hommes à produire de la richesse a cru beaucoup plus vite que leur nombre. Donc nous ne sommes pas dans un monde d'appauvrissement, nous sommes dans un monde d'enrichissement et peut-être de surexploitation de la planète.
C'est ça, qui pose des questions redoutables en matière d'écologie.
La question fondamentale, c'est la question écologique.
La question fondamentale. Cette histoire de la paix, cette question de la paix est aussi fondamentale.
Ah, elle est fondamentale. Alors, la thèse...
C'est quoi la paix? Ce sont des trêves entre deux guerres? L'état de nature étant l'état de guerre et la paix étant...
L'état de nature, c'est la guerre. Si vous voulez, la vie, c'est la guerre, c'est le conflit. Mais dans l'histoire du monde, on voit qu'il y a eu des périodes de paix ou des zone de paix par la Pax Romana ou du service de la Pax Americana dont nous sortons, dans lequel il y a une forme de paix. Alors qu'est-ce que c'est que la paix? La paix, c'est dans le, je vais vous donner une définition qui vaut ce qu'elle vaut. La paix, c'est dans laquelle un plus fort parvient à imposer son ordre, mais a suffisamment d'intelligence pour que, je dirais, les populations qui lui sont soumises en tirent un relatif profit. Et je dirais, l'exemple type, c'est la Pax Romana qui a duré plusieurs siècles. Bon. Et aujourd'hui, nous vivons la dernière paix impériale. C'est-à-dire que nous avons vécu la paix impériale américaine. Et j'explique dans le livre pourquoi les États-Unis ont assuré une paix. Il n'y aura pas d'autre paix impériale. Il n'y aura pas de paix impériale chinoise. Donc, il va falloir qu'on invente une autre forme de paix. Et l'idée, c'est qu'à ce moment-là, il va falloir inventer ce qu'on appelle la paix kantienne du philosophe allemand.
Emmanuel
Kant, qui a fait un très beau document sur le projet. Et l'idée, c'est qu'il faut que désormais, les peuples, les États, passent des contrats par lesquels ils acceptent de se lier par des obligations communes et produisent peu à peu une forme de gouvernance mondiale. Nous ne pouvons pas échapper à la gouvernance mondiale. D'ailleurs, l'ONU, disons, est une ébauche.
J'allais le dire, Philippe Moreau-Desfarges, elle existe déjà depuis longtemps, en quelque sorte. L'ONU et avant la Société des Nations.
Mais la Société des Nations, vous savez, c'est pas ancien. La Société des Nations, 1919. C'est pas vieux tout ça. Mais on voit qu'il y a une rupture, et je reviens à ces chiffres, rupture du fait de l'augmentation des nombres d'hommes, du fait de la capacité des hommes à produire, et troisième élément, du fait de la contraction massive de l'espace et du temps. Il y a un terme qui est utilisé, qui n'est pas faux, c'est l'anthropocène. C'est-à-dire l'idée que, désormais, l'homme domine totalement la Terre. C'est vrai qu'il peut aussi la détruire, mais que le rapport entre l'homme et la nature est en train de se modifier.
Alors, commençons notre voyage aux États-Unis avec une victoire pour Donald Trump, en quelque sorte, et qui symbolise vraiment l'analyse que vous faites dans votre livre sur cette question de la paix. C'est la signature d'un contrat commercial, finalement, avec la Chine. Après des mois de crise et de tensions, il faut prendre cette signature avec beaucoup de prudence, bien sûr. Et je vous propose de rejoindre à Washington mercredi Anne Corpée.
Les Chinois s'engagent à acheter 200 milliards de dollars de produits américains supplémentaires, à mieux respecter la propriété intellectuelle, à mettre fin aux transferts de technologies forcées et à ne pas manipuler leur monnaie. Les Américains promettent, eux, de ne pas imposer de nouvelles taxes et de baisser de moitié certains tarifs douaniers. Les deux parties affichent leur satisfaction. Donald Trump parle d'un accord historique, mais il ne perd pas de vue son électorat.
Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante, une étape qui n'a jamais été franchie auparavant avec la Chine. Ensemble, nous redressons les torts du passé pour la justice économique, pour la sécurité des travailleurs et des fermiers américains ainsi que de leurs familles.
Dans une lettre rédigée par le président chinois, élu par un haut responsable pendant la cérémonie, Xi Jinping le souligne, cet accord commercial sera bénéfique pour le monde entier, mais il ajoute...
J'espère que les États-Unis traiteront équitablement les entreprises chinoises et qu'ils soutiendront la collaboration entre les entreprises, les instituts de recherche, les écoles et les universités des deux pays, car cela aidera à construire une confiance mutuelle et la coopération entre nous.
La signature de cet accord arrive à point nommé pour le président américain en campagne, mais ce n'est qu'une étape. Donald Trump doit bientôt se rendre en Chine pour entamer la suite des négociations qui, prévient l'administration, n'aboutiront sans doute pas avant les élections américaines.
Alors restons aux États-Unis un instant, Philippe Mordefarge, avec la signature cette fois par les démocrates de la Chambre des représentants de l'acte d'accusation de Donald Trump par les démocrates, donc dans la procédure d'impeachment. Et le procès a commencé ces dernières heures au Sénat, à San Francisco jeudi, Éric de Salve.
Devant les sénateurs avec gravité, le procureur en chef Adam Schiff commence la lecture de l'acte d'accusation de Donald Trump pour crime grave et délit et donne ainsi le coup d'envoi de son procès.
Donald Trump a abusé des pouvoirs de la présidence en utilisant son mandat suprême pour solliciter l'interférence d'un gouvernement étranger, l'Ukraine, dans l'élection présidentielle de 2020.
Cérémonie très solennelle. Donald Trump est seulement le troisième président de l'histoire à être jugé par le Sénat. Dans un silence total, habillé de sa toge noire, le président de la Cour suprême fait son entrée dans l'hémicycle, main gauche sur la Bible, main droite levée, John Roberts prête serment. Le plus haut magistrat des États-Unis demande ensuite aux 100 sénateurs de se lever pour jurer de juger de façon impartiale le président américain conformément à la Constitution. Les auditions du procès du 45e président des États-Unis doivent débuter mardi pour durer près de 2 semaines. Malgré de nouvelles déclarations d'un adjoint de son avocat assurant qu'il était parfaitement au courant de la diplomatie parallèle menée en son nom en Ukraine, Donald Trump est toujours soutenu en bloc par sa majorité républicaine.
Alors là, Philippe Moreau-Desfarges, il y a déjà matière à commentaire. Je vous sens bouillir depuis Alors, on va d'abord parler de cet accord entre la Chine et les États-Unis. Il faut rester prudent parce que c'est sûrement pas un accord définitif et qui va résoudre la question. Mais il y a quand même accord.
Attendez. Ce qui m'a frappé, j'ai entendu les deux déclarations. La déclaration des Américains, elle se félicite et elle parle d'accord historique. Comme Joseph Chamberlain parlait d'accord historique à propos des accords de Munich. En écoutant ce reportage, j'ai pensé aux accords de Munich. C'est la promesse. Et c'est bon. Mais regardons du côté des Chinois. Vous avez vu ce qu'a dit le Chinois? Il a dit, non, cet accord, nous allons le juger sur ce qu'il produira comme résultat. Donc vous avez d'un côté des États-Unis qui veulent faire confiance à cet accord, qui veulent croire que c'est un accord historique. De l'autre côté, vous avez des Chinois qui vont constamment titiller les États-Unis pour leur dire « Est-ce que vous respectez l'accord ? Est-ce que vous respectez ? Est-ce que vous le remplissez ?» Donc non, ça n'est absolument pas terminé. Je peux vous rappeler que dans ces moments de crise, il y a toujours des pauses, et il y a toujours des accords historiques qui, le lendemain, ne valent plus rien. Donc je crois que là, nous continuons le bras de fer. Vous savez, le bras de fer, il est très dur. La Chine veut être le numéro un mondial. Ils veulent leur vengeance, ils veulent leur revanche. Et les États-Unis veulent rester le numéro un mondial. C'est ça l'enjeu. Donc l'enjeu, il est toujours là. Il se déroule en mer de Chine, il se déroule partout dans le monde.
Alors ça me fait penser à un livre publié récemment, enfin il y a quelques années quelques mois aux États-Unis, qui s'appelle Le piège de Thucydide.
Qui est remarquable.
Et qui revient sur cette rivalité entre Sparte et Athènes et qui compare en fait la situation de rivalité extrême États-Unis-Chine à cette rivalité Sparte. Sparte Athènes, avec les risques que cela comporte.
Vous avez tout le livre de Dalisson est tout à fait remarquable, mais quant au livre, il est extrêmement sombre. C'est-à-dire, il montre très bien une croissance très forte de la Chine et une volonté de la Chine de se placer sur des secteurs stratégiques, et de l'autre côté, une Amérique qui ne peut pas accepter ça. Donc, le piège de Thucydide, c'est la peur devant la montée du nouveau puissant, et le vieux puissant doit se battre. Donc, non, ça n'est pas terminé. Ça n'est pas terminé.
Le deuxième volet de ce voyage, cette escale aux États-Unis, Philippe Moreau-Desfarge, c'est donc ce procès en destitution. Qu'en pensez-vous? On sait tous que le Sénat votera contre, mais quand même.
Alors, je ne vais pas revenir en 1938, je vais revenir au XVe siècle. Au XVe siècle, lorsque Byzance est assiégée par les Ottomans et Byzance va tomber aux mains des Ottomans, à la cour de Byzance, l'on débat du sexe des anges. C'est-à-dire que, c'est la même chose. Aujourd'hui, ce débat est triste parce que Donald Trump ne sera pas. Il restera à la tête. Donald Trump est très populaire. Donc, les démocrates et le Congrès s'absorbent dans un combat perdu d'avant, alors que l'enjeu véritable, c'est la présidence des États-Unis, c'est demain. Et j'ai envie de dire, les démocrates se jettent là-dessus parce que ils n'ont pas de candidat pour demain. Et c'est un peu triste, mais je vous assure, cette affaire n'est pas une bonne affaire pour les démocrates. C'est pas une bonne affaire. Je vous assure, et je suis sûr que le procès va tourner court. Et Trump le sait très bien.
D'autant que les accords dont nous venons de parler avec la Chine vont satisfaire l'électorat de Donald Trump.
Exactement. Vous savez, attendez, il faut jamais sous-estimer celui que l'on n'aime pas ou son adversaire. Il ne faut pas sous-estimer Trump. Trump est un homme certainement, peut-être, enfin, il faut s'en méfier beaucoup, mais c'est un homme intelligent et un homme qui est bien entouré. Et là, dans l'affaire de l'impeachment, les démocrates risquent de se piéger eux-mêmes.
Philippe Moreau-Desfarge, quand vous parlez de la Chine dans votre livre, vous posez une question à un moment. Vous vous demandez si la Chine n'est pas en train de vouloir exporter une sorte de, là je vous cite, de confucianisme universaliste.
Tout à fait. La Chine est fascinée par les États-Unis. Ils veulent être les nouveaux États-Unis. Or, la force, le génie des États-Unis a été d'exporter le rêve américain. Nous sommes tous nourris du rêve américain, qu'on l'appelle Elvis Presley, enfin, j'en sais rien, Michael, on est tous nourris de ça. Donc, la Chine dit, je veux égaler ça. Et voudrait, mais ils n'y arriveront pas. Le confucianisme n'est pas universaliste, le confucianisme est chinois. Ce que j'explique dans le deuxième chapitre de mon livre, c'est que l'histoire des États-Unis est exceptionnelle du fait de l'ascension des États-Unis, premièrement, et du fait de la période de l'histoire à laquelle ils sont apparus. Donc la Chine poursuit un rêve impossible, mais néanmoins, elle voudra sa revanche.
Et vous marquez en quelque sorte la fin du règne de la Pax Americana à 2003.
Oui, alors, vous savez, le problème dans l'histoire, c'est qu'on prend des dates comme on les prend.
Oui, il faut des repères.
Oui, il faut des repères. Bon, j'ai pris... je pouvais prendre 2001, bien sûr, le 11 septembre. Pourquoi j'ai pris 2003? Parce que c'est l'Irak et l'échec de l'intervention irakienne. J'aurais pu prendre d'autres dates. Mais disons qu'on voit bien que la fin de la Pax Americana, au fond, elle commence avec la fin de la guerre froide, c'est-à-dire dès les années 90. Alors, vous me direz, le premier président du repli, c'est Barack Obama. C'est pas Donald Trump, c'est Barack Obama.
Une semaine d'actualité.
Et je vous propose de partir pour l'Iran maintenant, Philippe Moreau-Desfarge, et revenir sur les manifestations contre le régime au début de la semaine. La colère des Iraniens est restée vive lundi dernier, malgré le démenti du gouvernement qui a nié avoir tenté de masquer la responsabilité des autorités dans le drame de l'avion ukrainien abattu par erreur le 8 janvier dernier. L'Iran a finalement, on le sait, reconnu sa responsabilité à Téhéran. Dirosh Ghazi.
Lundi, un petit rassemblement s'est déroulé à l'intérieur de l'enceinte de l'université Sharif, la plus prestigieuse du pays. Parmi les passagers de l'avion, il y avait en effet plusieurs anciens étudiants de cette université qui vivaient au Canada. De même, une petite manifestation a eu lieu à Isfahan. Dans les deux cas, des slogans très durs ont été de nouveau lancés contre les plus hautes autorités du pays, mais il semble bien que le pouvoir a repris la situation en main. Par ailleurs, la police a démenti avoir tiré sur des manifestants dimanche soir à Téhéran. En effet, plusieurs personnes ont été blessées par des balles tirées avec des armes de chasse. Or, la police ne possède pas de telles armes. Enfin, le porte-parole du gouvernement a présenté ses excuses et a affirmé que le président Hassan Rouhani allait intervenir pour parler à la population. De nombreux Iraniens ne comprennent pas pourquoi les autorités politiques, notamment le président Hassan Rouhani, n'est pas intervenu jusque-là. Les deux plus hauts responsables des gardiens de la révolution ont affirmé de leur côté qu'ils prenaient toute la responsabilité de l'erreur et auraient préféré mourir et ne pas voir cette situation. L'enquête se poursuit toujours sur les raisons du tir par erreur d'un missile qui a provoqué la chute de l'avion ukrainien et le pouvoir a promis la punition des responsables et la compensation des victimes.
Autre destination maintenant dans ce magazine, Philippe Moreau-Desfarges, la Russie. Avec la démission surprise du gouvernement russe mercredi, Dmitri Medvedev, le Premier ministre, a été prié de partir sur ordre de Vladimir Poutine. Et il est impossible de dire non à Vladimir Poutine. À Moscou, reportage de Daniel Valo.
L'hymne russe retentit, Vladimir Poutine vient d'achever son discours annuel devant les parlementaires et d'annoncer une vaste réforme de la Constitution. Les experts n'ont le temps d'en mesurer ni les tenants ni les aboutissants qu'intervient moins de deux heures plus tard la deuxième surprise de la journée. Sur les écrans de télévision apparaît Dmitri Medvedev, le Premier ministre russe, aux côtés de Vladimir Poutine.
Il est évident que nous devons donner au président la possibilité de prendre toutes les décisions nécessaires. Et dans ces conditions, il est juste que le gouvernement démissionne.
Le fidèle lieutenant de Vladimir Poutine remercie après 8 années de bons et loyaux services. C'est avec une bonne dose d'ironie que le président salue le travail accompli.
Bien sûr, tout n'a pas réussi, mais tout ne réussit jamais complètement. J'espère que nous nous reverrons prochainement et vous demande d'exercer vos fonctions jusqu'à l'arrivée du nouveau gouvernement.
Dmitri Medvedev n'aura pas longtemps à attendre. Dès la fin de l'après-midi, le nom de son successeur était annoncé, un certain Mikhail Mishustin, patron de l'administration fiscale russe, presque aussi méconnu dans son propre pays que l'était Vladimir Poutine en 1999, lorsque celui-ci fut nommé Premier ministre par Boris Yeltsin.
Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes en compagnie de Philippe Moreau-Desfarges qui vient d'écrire Une histoire mondiale de la paix, un livre publié aux éditions Odile Jacob. On va d'abord parler de l'Iran, si vous le permettez, Philippe Moreau-Desfarges. Risque de guerre ou pas, selon vous?
Non, pas risque de guerre. Non, le risque, c'est plutôt le chaos. Vous voyez, ce qui est fascinant dans ce reportage, c'est qu'un gouvernement comme le gouvernement iranien reconnaisse sa culpabilité. Ça prouve un régime extrêmement affaiblissant. Vous savez, pour faire ça, il faut être dans un état de faiblesse considérable. Donc, la grande question, c'est quel est l'avenir de l'Iran? Car le régime des mollahs peut tomber. Donc, on voit qu'il y a... Et c'est ça qui est très inquiétant. Alors, si vous voulez, il y a à la fois une inquiétude sur l'avenir de l'Iran, et si vous voulez, Donald Trump a joué avec le feu, il a joué complètement avec le feu. Ça risque de se retourner contre les États-Unis, parce qu'au-delà du chaos de l'Iran, c'est le chaos de tout le Moyen-Orient. Regardez l'état de la région, il est catastrophique. Vous savez, moi, il y a un événement que je redoute et qui peut arriver. C'est une tragédie à La Mecque. La Mecque, c'est la capitale de l'islam. Et je vous rappelle, c'est une ville qui reste interdite aux non-musulmans. Et là, on voit bien que si un jour des émeutes ou un attentat à La Mecque, comme il y en a déjà eu, se produit, ça... Tout peut exploser. Donc, il y a une double inquiétude. L'avenir de l'Iran et l'avenir du Moyen-Orient.
Alors, à propos de l'Iran, il faut noter qu'Hassan Rouhani, l'autorité suprême, s'est adressé à la nation, ce qui est rare aussi. Et il a présidé, ce qui est encore plus rare, hier, vendredi, la grande prière du vendredi. Oui. Ça veut dire qu'il y a une inquiétude.
Ah oui, il y a une très grande inquiétude. Alors, attendez, Hassan Rouhani, il est fini. Il est fini. Il a échoué. Si vous voulez, son pari, c'était une politique d'ouverture vers l'Occident et d'une réconciliation avec l'Occident et notamment avec les États-Unis. Oui. Il n'y est pas arrivé. Donc, c'est un homme qui est en état de survie. Demain ou après-demain, il ne sera sans doute plus au pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer après? Non, c'est très, très inquiétant. Et là, ce qui est un peu choquant, c'est que franchement, les États-Unis ont joué avec le feu. Si vous voulez, l'accord sur le nucléaire n'était peut-être pas parfait.
Qu'a dénoncé Donald Trump?
C'était peut-être pas. Mais au moins, il fallait réintégrer l'Iran. Parce qu'on voit attendez, autour de l'Iran, c'est pas plus brillant. Le grand allié des États-Unis, l'Arabie Saoudite, c'est une... Enfin, attendez. On va avoir de très mauvaises surprises en Arabie, parce que le fameux prince, la MBS, c'est un drôle de bonhomme.
Oui, il l'a déjà montré. La Russie maintenant, Philippe Moreau-Desfarges, alors ça a été la surprise cette semaine, avec ce nouveau gouvernement et un projet de réforme constitutionnelle qui prévoit que finalement le pouvoir exécutif sera surplombé par une sorte de conseil d'État qui aura tout pouvoir, et certains soupçonnent déjà Vladimir Poutine de penser à son après période d'élection avec la présidence de ce conseil d'État.
Alors, cher Pierre, je vais te mettre en désaccord avec vous. Il n'y a pas de surprise. Poutine, il veut garder le pouvoir.
Par tous les moyens,
il l'a fait en changeant le mode d'élection. Oui.
Enfin, alternant le pouvoir avec Medvedev, d'ailleurs.
Il recommande. Mais je vais vous dire une chose, ça se terminera très mal. Ça va se terminer très mal. Je vous rappelle ce que disait, il y a une phrase très connue, le pouvoir rend fou, le pouvoir absolu rend absolument fou. Et quelque part, Poutine est accroché à ce pouvoir. Et là, il y aura quelque chose, je vous dis, l'histoire est pleine de surprises. Poutine, c'est l'homme qui veut garder le pouvoir. Il veut le garder jusqu'à la mort. On verra. L'histoire n'est pas terminée. L'histoire n'est pas terminée.
Et sauf que les Russes sont mécontents, ont des raisons d'être mécontents. Les retraites, le niveau de vie, la qualité de vie, entre guillemets. Donc la contestation existe.
Et puis attendez, malgré tout, l'une des...
Elle est réprimée, cette contestation, mais elle existe.
Elle existe. Non, il y a une tragédie russe, si vous voulez. C'est un très grand peuple. L'histoire de ce peuple. Mais c'est un peuple, on pourrait dire, c'est un peu parfois des Français, qui est incapable de se développer économiquement. Quand vous regardez ce pays dont l'histoire est extraordinaire, qui a donné des poètes, des musiciens, des artistes, qui s'est battu pendant la Seconde Guerre mondiale avec un courage, en même temps, il n'arrive pas au développement économique. Et donc, Poutine promettait cette prospérité, et finalement, c'est un peu caricat. Puis surtout, comme toujours, dans la mondialisation, la prospérité est très inégale. C'est-à-dire, c'est la prospérité à Moscou, dans certaines grandes villes, et puis le reste de la Russie. Alors, j'ajoute une chose, on s'en vient, c'est le désastre écologique et la Russie. C'est une catastrophe écologique.
Alors comment, quand on pense à Moscou, quand on pense à Téhéran, parler de paix ?
Alors, vous avez raison. Pourquoi parler de paix ? D'abord, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est totalement organisé pour empêcher non pas la guerre, mais la grande guerre. Et il y a quand même tout un...
C'est au cœur de votre livre,
oui,
ça.
Oui, il y a quand même tout un développement institutionnel.
C'est-à-dire la guerre mondiale.
Voilà. Il y a quand même, si vous voulez, l'ONU, les armes nucléaires, l'homme est condamné à une prudence. Donc, quelque part, nous avons bâti un monde où il ne peut pas y avoir de grande guerre. Le problème que j'évoque, c'est que... Alors, vous me direz, qu'est-ce que c'est la paix ? La paix, pour le moment, c'est une définition négative. La paix, c'est d'éviter, grosso modo, une grande guerre entre les hommes. Simplement, qu'est-ce que serait une vraie paix ? Une vraie paix, ce serait une paix dans laquelle les hommes serait capable de se bâtir un projet commun. Bon, il y a cette idée au cœur de l'ONU. Pour le moment, on n'y arrive pas. Alors, vous me direz, quel est le projet commun ? Le projet commun, c'est d'assurer la survie d'une humanité civilisée. L'humanité, aujourd'hui, n'a jamais été aussi puissante, avec ses moyens techniques, hein, on le vit dans tous les domaines. Donc, elle n'a jamais été aussi vulnérable. Pourquoi ? Parce qu'autrefois, je dirais, les catastrophes pouvait venir d'abord de la nature. Au fond, les dinosaures ont disparu à cause d'une catastrophe naturelle. Nous, les hommes, nous sommes capables de nous détruire. L'espèce humaine est capable de se détruire, pas seulement par la main atomique, mais par des désastres naturels. Et là, il va falloir que l'humanité se pense autrement. Donc c'est vrai que je ne suis pas écologiste, hein, je ne suis pas du tout écologiste. Je sais que le défi écologique est le défi central qui va marquer toutes les années, les décennies.
On le voit en ce moment avec ce qui se passe en Australie, d'évidence. Mais comment, là je vous titille un peu, Philippe Moreau-Desfarges, comment convaincre Monsieur Poutine, Monsieur Erdogan et d'autres de lire Emmanuel Kant ?
On les convainc pas. Si vous voulez, le seul moyen, je vais dire une chose sérieuse, le seul moyen de convaincre les gens souvent, surtout ce genre de, c'est des paires de claques. Il faut des échecs. À nouveau, je ne vois pas M. Poutine, mais regardez, la chute de l'Union soviétique, c'est Tchernobyl. Donc, il y aura, hélas, en Russie, quelque chose qui fera obligé de se changer de chose. De même, Monsieur Erdogan, je vous dis, Monsieur Erdogan, attendez, il se prépare de jours difficiles en Syrie.
En Libye aussi.
Vous savez, cette prétention à s'avancer, ça tourne très mal. Hein, ça tourne très très mal. Vous savez, quand on dit la Russie a gagné en Syrie, elle n'a absolument pas gagné. Gagner, c'est construire quelque chose. Donc il faut que l'humanité accepte de se construire à des... C'est très difficile. Mais je dis, si vous voulez, la phrase que je dis, l'humanité est condamnée à la paix si elle veut survivre comme une espèce civilisée. Voilà, c'est ça l'idée. Mais je dis pas que ça se réalisera. J'espère que ça se réalisera.
Une semaine d'actualité.
Et arrêtons-nous un instant en France maintenant, Philippe Moreau-Desfarges, la France qui est en quête d'une paix sociale. Et nous allons parler des grèves contre la réforme des retraites et l'annonce au début de la semaine de la suspension de la question, suspension seulement, de la question de l'âge pivot. On a parlé la semaine dernière avec notre invité, Patricia Lecomte.
Certes, le gouvernement a accepté de retirer provisoirement de l'avant-projet de loi le premier âge pivot. Fixé à 64 ans, il doit permettre de ramener à l'équilibre financier les actuels régimes de retraite en 2027. Les partenaires sociaux réunis dans une conférence des financeurs ont jusqu'au 30 avril pour proposer des alternatives satisfaisantes. L'exercice laisse peu de marge car Matignon refuse des baisses des pensions et des hausses du coût du travail, ce qui fait dire à Édouard Philippe qu'une mesure d'âge sera probablement nécessaire. Matignon a anticipé un second âge pivot. Dans une saisine rectificative envoyée au Conseil d'État, il est stipulé que le gouvernement sera autorisé à prendre par ordonnance toute mesure permettant d'atteindre l'équilibre financier du futur système, y compris en modifiant l'âge d'ouverture des droits à retraite. Il ne sera plus question de durée travaillée, mais d'un âge de taux plein qui sera fixé en fonction de la génération et de son espérance de vie. Établi au début à 64 ans, il augmentera par la suite. Les Français risquent bel et bien de travailler plus longtemps, comme le gouvernement l'avait annoncé.
Alors, une autre crise parlementaire, cette fois, risque de s'ouvrir avec cette question de la réforme des retraites, car les députés, certains d'entre eux, craignent de voir se prononcer sur un texte incomplet, sans financement. Anthony Latier.
Examiner la réforme sans connaître le financement du futur système des retraites, c'est tout simplement scandaleux pour le député Les Républicains, Julien Aubert.
On invente, si vous voulez, le texte gruyère, le texte à trous. Et on ne nous demande même pas au Parlement d'ailleurs de le combler, on nous explique qu'il faut le voter en l'état. Je ne sais pas si beaucoup de Français accepteraient de signer un contrat dont ils ne connaîtraient pas la moitié des mots.
Certainement pas le socialiste Boris Vallaud qui lui non plus ne décolère pas contre l'utilisation prévue par le gouvernement d'ordonnances pour faire passer une large partie de la réforme.
C'est-à-dire que les parlementaires dans le débat vont légiférer les yeux fermés. C'est inadmissible. Dans 10 ans, je le dis, nous ramasserons notre système de retraite à la petite cuillère parce que nous avons affaire à des gens qui sont incapables de conduire cette réforme et qui ne laissent place ni au dialogue social, ni au débat parlementaire.
Le débat ne sera ni verrouillé, ni expédié, assure de son côté le député En Marche, Jean-François Cesarini.
Déjà, ça fait 2 ans, il y a eu 2 ans de négociations. Ça fait 1 mois et demi qu'on est en grève et qu'on est en impasse. Je crois sincèrement que ce texte a tellement évolué qu'on est là en capacité quand même effectivement sur l'essentiel, à avoir des points d'accord assez rapides.
Le gouvernement le promet, c'est bien le Parlement qui aura le dernier mot sur la réforme.
Alors Philippe Moreau-Desfarges, alors que nous en sommes, je crois, au 45e jour de grève dans les transports publics, notamment à Paris, entre autres. Quel est votre regard sur cette... Je ne vais pas vous demander une analyse de la réforme sur les retraites, quoique, mais sur le contexte qui existe en France.
Je ne vais pas répondre en expert, je vais répondre en citoyen. J'ai envie de pleurer. Alors pourquoi j'ai envie de pleurer? Premièrement parce que dans tout ce débat, on ne voit pas l'extérieur. N'oubliez pas que la France, elle vit de l'échange, elle vit de l'extérieur. Quand on pense à toutes les activités commerciales qui sont cassées à Paris, ça me rend malade. Bon, premièrement. Deuxièmement, ce qui me rend malade, c'est qu'on ne voit pas le long terme. À nouveau, les équilibres démographiques sont en train de changer. Je suis désolé, on va vivre plus vieux.
C'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle. Mais ce que je trouve terrible, c'est qu'on présente le travail comme une malédiction. Mais le travail, c'est merveilleux. C'est formidable, le travail. C'est un moyen de se réaliser. Je suis désolé. Alors, c'est vrai qu'il y a des travaux. Des tâches ennuyeuses, mais si vous voulez, il faut quand même avoir ce goût du travail. Et j'avoue que je suis attristé par cette tristesse. Hier, par hasard, je me trouvais au quartier Montparnasse. Je voyais cette espèce d'explosion. Je m'excuse. Je suis désolé, d'une joie mauvaise. En outre, quand j'entends tous ces députés qui ne se préoccupent pas de l'intérêt de la France, de l'avenir de notre pays, savoir comment cette réforme va être financée, à la limite, on peut donner des calculs, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça va dépendre de la croissance économique, de l'évolution démographique, de toutes ces idées de comportement. Et j'avoue que je suis désolé, ma réponse n'est pas du tout une réponse d'expert, mais j'ai peur pour mon pays. J'ai peur pour mon pays.
Donc, on va essayer de parler d'autre chose que de nouvelles peurs.
Voilà,
vous dites que cette France, notre pays, a des atouts et vous insistez sur 2 choses, Philippe Moreau-Desfarges, sur son ancrage méditerranéen et sur ses relations avec l'Afrique, dont on va parler dans un instant.
Pour moi, l'Europe, la France est un pays européen, l'Europe n'a pas d'avenir si elle n'est pas ouverte sur le monde. Et c'est clair qu'on voit que le grand point d'ancrage de l'Europe, parce qu'on voit qu'il y a un axe Asie-Pacifique autour, je dirais, États-Unis et Chine, mais nous devons bâtir un axe, je vais très loin, du Cap Nord, de la Scandinavie, jusqu'à l'Afrique du Sud, et de l'Atlantique jusqu'à l'Asie centrale. C'est ça notre avenir, c'est de bâtir un vaste espace. Et à nouveau, l'avenir du monde, il est en partie en Afrique, à cause du dynamisme économique. À nouveau, vous savez, je vous rappelle une phrase d'un Français du XVIe siècle, Jean Bodin, il n'est de richesse que d'hommes, ce sont les hommes qui créent de la richesse. Tous les pays qui ont des matières premières, c'est une catastrophe. Les pays qui ont des hommes, réussi. Donc, je le dis, la Méditerranée, c'est l'avenir, et la Méditerranée ne peut pas être un mur. Elle ne peut pas être un mur. Si l'Europe devient une forteresse, elle va mourir.
Et cette Europe, comment la voyez-vous aujourd'hui, Philippe Moreau-Desfarges, sur le plan politique, cette Union européenne?
Ce que je vois, si vous voulez, là je vais pas exprimer en tant qu'expert. Hein. J'ai quand même ma conviction, c'est qu'il faut faire une fédération européenne, et je sais que quand on dit ça, on choque beaucoup de gens. Mais je crois à une fédération européenne. Pourquoi? Si vous voulez, ce que je pense, c'est que les États, participant à la Constitution européenne, ont transféré leur souveraineté et qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Et ceux qui veulent un retour en arrière, ils n'auront pas la France, ils n'auront pas l'Espagne, ils auront un éclatement. Car on voit qu'aujourd'hui, l'Europe est travaillée à la fois par des tendances supranationales, mais elle est travaillée par une tendance plus, ce que j'appelle les micronationales. L'un des grands problèmes d'aujourd'hui, c'est le micro, enfin, entre guillemets, les Catalans, les Flamands, et on va voir si l'Europe ne continue pas sa marche en avant, elle va se fragmenter. Elle va se fragmenter complètement.
Sans la Grande-Bretagne.
Mais attendez, nous sommes au début du Brexit. Si le Brexit se fait, la Grande-Bretagne, c'est fini. Le Royaume-Uni va éclater. C'est-à-dire, il y aura un divorce Écosse-Angleterre. Donc, il n'y aura pas... Le Brexit, c'est pour l'Angleterre. Donc, ça veut dire que le Pays de Galles, l'Irlande et l'Écosse seront un véritable problème. Non, non, attendez, le feuilleton du Brexit, il n'est pas fini. Hein. Il n'est pas fini du tout.
Vous avez l'air donc assez inquiet, Philippe Moreau-Desfarges, face à cette évolution du monde.
Ah oui,
Qui venez donc d'écrire cette histoire mondiale de la paix.
Oui, parce que, si vous voulez, il faut espérer. Hein. Il faut toujours espérer. Oui, je suis inquiet parce que je sais que nous sommes dans un moment révolutionnaire. Et, si vous voulez, alors, je vais vous dire pourquoi je suis inquiet. L'histoire m'a appris que les hommes n'agissent pas. Ils sont agis.
Ils réagissent.
Mais je vais vous donner un exemple simple, hein, mais historique. J'aime bien les exemples. Nicolas II, en 1914, le tsar de toutes les Russies. Il sait que la guerre, s'il déclenche la guerre, il perdra son trône. Il le sait. Il est entouré des militaires russes. Et à un moment donné, il refuse de déclarer la guerre. Il dit aux militaires russes, je ne peux pas déclarer la guerre, je vais perdre mon trône. Et pas de déclaration de guerre. Quelques jours plus tard, les militaires russes sont à nouveau dans le bureau du tsar. Ils disent au tsar, votre majesté, on coupe les téléphones. Vous ne pourrez pas sortir. Vous signez la déclaration de guerre. Sans ça, on ne sortira pas. Et Nicolas II a signé la déclaration de guerre. Et Rasputin avait raison. Parce que Rasputin a dit à Nicolas II, si tu déclares la guerre, majesté, tu perdras ton trône. Il a perdu son trône. Il est mort misérablement à Ekaterinbourg. Donc, les hommes peuvent faire ce qu'ils considèrent comme dangereux. On voit qu'aujourd'hui, attendez, pour revenir à l'exemple d'ailleurs de la France, on voit que nos gouvernants, et c'est triste, sont paumés. Et on voit bien que les hommes ne sont pas lucides. Ils sont à demi lucides et à demi aveugles.
Écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, je salue quelques auditeurs, comme chaque samedi. Bonjour par exemple à Moussa qui nous écoute à Conakry, à Michael, à Yaoundé. Bonjour à Sawadogo, à Ouagadougou, à Issouf, à Koudougou. Bonjour à Noël Romuald, un salut à Guillaume à Goma, à Mohamed Habib à Dakar et à Antonio à Berlin.
Une semaine d'actualité.
Et parlons de l'actualité en Afrique maintenant, Philippe Moreau-Desfarges, essentiellement au Sahel. Et revenons en effet sur le sommet de Pau, début de la semaine, consacré à la situation dans cette région stratégique où la guerre sévit. Pierre Firsion.
Même si aucun des cinq présidents sahéliens ne s'est exprimé sur le sujet lors de la conférence de presse commune, la clarification voulue par Paris a bien eu lieu. Dans la déclaration conjointe, les présidents des pays du G5 expriment leur souhait de la poursuite de l'engagement militaire de la France au Sahel. Au-delà, ils plaident pour un renforcement de la présence internationale à leur côté. À l'heure où Washington réfléchit à réduire sa présence militaire dans la région, tous font part de leur reconnaissance à l'égard de l'appui crucial apporté par les États-Unis et souhaitent la poursuite de l'engagement américain. Mais l'annonce la plus importante est la mise en place d'un nouveau cadre politique, stratégique et opérationnel, baptisé Coalition pour le Sahel, et qui rassemblera les pays du G5, la France et les autres pays partenaires. Un cadre qui acte un recentrage des opérations militaires sur la région des trois frontières, avec désormais une cible prioritaire. Le Burkinabé Rochmar Christian Kaboré, président en exercice du G5 Sahel.
Un des éléments essentiels de ces attaques-là, c'est l'IGS. Nous avons priorisé la nécessité de mener le combat contre l'IGS donc au niveau des trois frontières de façon prioritaire, fondamentale.
Véritable innovation, c'est un commandement conjoint Barkhane G5 Sahel qui dirigera les opérations. Les forces spéciales européennes, désormais baptisées Task Force Takuba, seront intégrées à Barkhane. La force française qui sera renforcée sur place, 220 soldats supplémentaires, viendront ainsi s'ajouter aux 4500 déjà présents dans la région.
À l'occasion de ce sommet, Philippe Moreau-Desfarges, Emmanuel Macron a tenu à revenir sur le sentiment anti-français au Mali, notamment. Écoutons un extrait de ses propos.
À chaque fois qu'un État demandera à l'armée française de ne plus être là, nous le quitterons. Notre seul intérêt, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la lutte contre le terrorisme et la stabilité et la souveraineté des États où nous sommes présents. J'entends beaucoup de choses sur les réseaux, dans les déclarations. J'entends beaucoup de gens dans votre pays qui disent tout et n'importe quoi. Demandez-vous par qui ils sont payés. Demandez-vous quels intérêts ils servent. Moi, j'ai mon idée. Mais que ces gens-là disent qui se fait tuer pour leurs enfants. Moi, je sais qui est tombé pour la sécurité des Maliennes et des Maliens, des Nigériens, des Burkinabés, des soldats français. Et je le fais en conscience quand je décide de les envoyer là-bas. Donc, les discours que j'ai pu entendre ces dernières semaines sont indignes, indignes. Et ils sont combattus avec beaucoup de fermeté par vos dirigeants, et je les en remercie, et encore au moment des vœux. Ils sont indignes parce qu'ils servent aussi d'autres intérêts. Demandez-vous bien. Soit ils servent les intérêts des groupements terroristes qui voudraient voir plus puissants dans votre pays, soit ils servent les intérêts d'autres puissances étrangères qui veulent simplement voir les Européens plus loin parce qu'ils ont leur propre agenda, un agenda de mercenaires. Vous n'avez pas cet agenda-là. L'armée française, elle est là pour la sécurité et la stabilité. J'ai pas d'autres intérêts.
Et c'est donc dans ce contexte pour le moins tendu au Sahel que les États-Unis, on reparle des États-Unis, Philippe Moreau-Desfarges, annoncent un redéploiement de leurs soldats en Afrique notamment. Quelle est d'ailleurs l'importance de ce dispositif américain baptisé AFRICOM, Gaël Lalex?
Né pour préserver les intérêts américains dans la Corne de l'Afrique et en Libye, AFRICOM se tourne en 2013 vers le Sahel. Deux bases sont même créées au Niger, l'une à Niamey et la seconde, inaugurée au printemps dernier, à Agadez, qui aura coûté la bagatelle de 110 millions de dollars. AFRICOM a une mission d'entraînement, de conseil et d'équipement des armées sahéliennes, explique Samantha Réau, une des porte-paroles du programme. Autre bénéficiaire, l'opération française Barkhane, qui jouit d'abord d'un support logistique conséquent, notamment en termes de ravitaillement pour les avions de chasse français. Autre point crucial, le renseignement. Les Américains disposent d'avions d'écoute et de systèmes électromagnétiques qui permettent par exemple de repérer des téléphones satellites. Le renseignement américain a été notamment crucial dans le sauvetage des deux otages français enlevés au Bénin en mai dernier. Le soutien américain à l'opération Barkhane coûterait près de 45 millions de dollars par an au Pentagone, d'après le New York Times, une dépense dont les États-Unis pourraient vouloir se libérer. Pour l'heure, rien n'a été décidé ici, tente de rassurer une source militaire au Niger, et Samantha Réo d'ajouter qu'une Afrique sûre, stable et prospère reste dans l'intérêt des États-Unis à long terme.
L'actualité africaine, c'est aussi l'ouverture de la campagne pour les élections législatives en Guinée. Alors on le sait que la mobilisation de l'opposition se poursuit contre une réforme de la Constitution. Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Philippe Moreau-Desfarges, quel regard portez-vous sur cette guerre au Sahel, hein?
D'abord, j'approuve vraiment ce qu'a dit le président Macron. Il a quand même raison. Là, il faut quand même par moment réagir. La France fait tuer des soldats courageusement. Donc il a eu raison de le faire. Alors quel est le problème? Si vous voulez, il y a des régions qui posent des problèmes de maintien de l'ordre extrêmement compliqués. Et le Sahel en est une parce que ce sont des régions immenses, vastes, sans véritable...
L'Europe,
mais surtout, si vous voulez, on voit, par exemple, il y a une zone qui va devenir extrêmement dangereuse, c'est l'Amazonie. On voit, si vous voulez, il y a la nature qui se combine, premièrement. Deuxièmement, le deuxième facteur qui joue, c'est des gouvernements, malgré tout, largement impuissants ou ambivalents, ce qu'a laissé entendre avec beaucoup de nuances le président de la République. Et puis, c'est vrai qu'il y a des puissances ex-coloniales qui doivent assumer des responsabilités. Et là, il y a une difficulté énorme, mais si vous voulez, la difficulté, c'est que l'Afrique n'arrive pas à s'assumer elle-même. Et si vous voulez, il peut y avoir, si vous voulez, à la fois, il faut se réjouir du développement de l'Afrique, mais l'Afrique, ça peut tourner. Pour le moment, c'est une proie. C'est une proie. Et quand on voit, par exemple, sur le Sahel, quand on voit ce qui se passe dans, au Congo, dans l'ex-Congo belge, quand on voit le pillage auquel se livre la Chine.
Regardez, c'est...
On est très, très, très inquiet. Le pillage en termes de matières premières et de destruction des ressources naturelles, c'est phénoménal.
Et pourtant, ce continent est un continent d'avenir.
Ah oui, on est d'accord. Mais il est un continent d'avenir à condition que les hommes se prennent en charge, que les Africains se prennent en charge. Je vous rappelle, toute la clé, c'est l'homme, c'est notre cerveau. C'est-à-dire, nous, c'est à nous de faire que notre monde soit vivable ou pas. Mais ça dépend de nous. Si vous voulez, si l'homme est intelligent, il peut très bien s'adapter. Il a suffisamment de ressources, suffisamment de richesses. La planète est suffisamment formidable pour lui offrir ce qu'il veut. Mais il faut que l'homme soit intelligent.
Et cette paix, cette nouvelle forme de paix que vous préconisez partir de la sagesse, en fait, des nations et d'une réflexion sur la paix perpétuelle d'Emmanuel Kant, comment pourrait-elle surgir dans un contexte, par exemple, africain?
Alors, le plus terrible, c'est qu'elle va surgir avec des catastrophes. Elle ne peut pas ne pas surgir par les... Alors, vous me direz, quelles seront des catastrophes écologiques? Par exemple, c'est pas impossible qu'un jour les Congolais se révoltent parce que on détruit complètement leur paysage, on ravage tout. On est en train de tout ravager. Il y aura à un moment donné une révolte de ces populations. Donc, ça ne se passera pas bien. Et puis, la deuxième étape, c'est la prise de conscience et qu'enfin, les hommes... Rappelez-vous, il y a un homme qui est intéressant qui était Gorbatchev. Je vous rappelle que Gorbatchev avait fait un très beau discours aux Nations Unies. Probablement, il était quand même marqué par la catastrophe de Tchernobyl. Il a dit, désormais, les conflits idéologiques n'ont plus d'importance. Ce qui est important, c'est qu'il y a une seule humanité qui doit apprendre à vivre ensemble.
Oui. D'autant qu'il y a une nouvelle génération d'Africains, quels que soient les pays africains dont nous parlons, qui aspirent à un autre modèle politique.
Mais on est d'accord. Attendez, le problème, je vais vous dire, dans l'histoire de l'humanité, je vais utiliser une expression familière. Celui qui gagne, c'est souvent l'emmerdeur. Celui qui emmerde le monde. Hitler a emmerdé le monde. Et finalement, il finit par provoquer la guerre. Alors, espérons qu'en Afrique, il y aura suffisamment d'hommes raisonnables pour laisser de côté des dangereux tyrans. Et l'Afrique, en matière de tyrans, elle n'en a pas manqué.
Parce qu'il y a beaucoup d'Africains, des millions d'Africains qui aspirent à la démocratie, qui aspirent à la paix, qui aspirent au développement économique et qui font tout d'ailleurs pour ça, qui se battent.
Mais on est d'accord. Mais n'oubliez pas que les hommes peuvent être manipulés par les politiques. Donc, pour que ces Africains... soient raisonnables, il faut qu'on leur donne un vrai projet qui devienne concret, c'est-à-dire qu'ils sentent dans leur vie quotidienne, quand vous voyez le courage de certains médecins africains, quand vous en voyez les conditions dans lesquelles ils vivent, on se dit, pourquoi ne partent-ils pas? Il y en a beaucoup.
C'est à l'Union africaine, par exemple, d'imposer un tempo, d'imposer son rythme,
d'imposer une politique. C'est à l'Union africaine de faire prendre conscience aux Africains qu'ils ont un destin commun et que ce destin commun est aussi le destin commun de l'humanité. N'oubliez pas, ne pas séparer l'Afrique de l'humanité.
Alors, dernière étape pour aujourd'hui, dans notre voyage africain, Philippe Moreau-Desfarges, et là, on va parler de toute autre chose, quoique. Le Bénin, c'est notre dernière étape pour aujourd'hui, à l'occasion du retour au pays des sceptres royaux du Dahomey, l'actuel, donc, Bénin. Isabelle Chenu nous a tout expliqué.
C'est une initiative privée, loin des polémiques sur les restitutions d'œuvres d'art aux pays africains. Le galeriste parisien Robert Valois a réussi à fédérer un collectif d'antiquaires, dont des spécialistes des arts d'Afrique, et permis le retour au Bénin d'objets et de sceptres royaux appelés des récades. Ces objets de pouvoir en forme de canne coudée possèdent un manche en bois poli et une partie supérieure en métal ouvragé représentant le plus souvent un animal. Le musée de la récade a déjà reçu 37 de ces sceptres du royaume Fon. Aujourd'hui, la collection s'enrichit de nouveaux dons. Ces pièces, de retour au pays, ont eu une histoire tourmentée. Collectées par des administrateurs coloniaux français lors de l'expédition contre le Dahomey à la fin du XIXe siècle, elles auraient dû être dispersées dans une vente aux enchères l'an dernier à Nantes. Une association locale a saisi le ministère de la Culture pour bloquer la vente et le collectif des antiquaires les a acquises pour les donner au Bénin.
Voilà une nouvelle intéressante, Philippe Moreau-Desfarges.
Alors, vous avez trouvé des agréables. Oui, c'est une nouvelle intéressante et très belle. C'est quand même une goutte d'eau dans l'océan.
Bien sûr.
Mais si vous voulez, on voit bien que derrière ça, quel est le problème? On voit que, au fond, l'Europe a conquis le monde. L'Europe a colonisé le monde. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour les colonisateurs. Il y en a beaucoup. Mais en même temps, cette colonisation s'est accompagnée d'épouvantables crimes et de pillages. Et qu'aujourd'hui, il y a un rééquilibrage du monde qui oblige notamment les anciens colonisateurs à faire des gestes vers les colonies. Il faut là aussi que ce processus soit maîtrisé, soit contrôlé, soit raisonnable, mais il peut devenir déraisonnable. Parce que je pense que derrière ça, il y a beaucoup de rancunes. Prenez, il y a un débat qui va réapparaître, c'est sur la question de l'esclavage. On voit bien qu'il y a un débat sur les responsabilités. Il faut à la fois que nous, Européens, nous adressons nos responsabilités en matière d'esclavage, mais il faut savoir que des Africains ont aussi été responsables de l'esclavage. Mais c'est un débat très difficile, très très difficile.
Dans ce nouveau monde qui surgit, qui se façonne sous nos yeux depuis quelques années, Philippe Moreau-Desfarges, est-ce que les États vont jouer un rôle aussi important qu'avant? Parce que émergent, là aussi depuis quelques décennies, des peuples, des mouvements populaires, accélérés par les réseaux sociaux, les prises de conscience. On voit ce qui se passe par exemple au Liban en ce moment, c'est-à-dire que tout un peuple se mobilise. Est-ce que là, les peuples, dans ce nouveau siècle, n'ont pas un rôle plus important à jouer dans la redéfinition du monde?
Alors, attendez, le malheureux État, c'est le bouc émissaire. Je rappelle que l'État, il a une responsabilité très lourde. Et ça, je m'adresse à vous, hein, on est français. L'État, il nous apporte d'abord la sécurité, avec la police, etc., et il nous apporte la solidarité. Pour le moment, c'est au sein des États que se bâtissent les mécanismes de sécurité de cette manière. Donc, on a besoin des États. Donc, il ne s'agit pas de détruire les États. Et de ce point de vue-là, les mouvements micronationaux sont très inquiétants. Parce que ils veulent faire des États, mais des tout petits États. Non. Mais donc, il faut que, si vous voulez, ce qui est en cours, c'est une redéfinition du rôle de l'État. Je vais vous donner un exemple. Puisqu'on a parlé de la crise des retraites, on demande à l'État de prendre en charge les individus de leur vie de leur naissance à leur mort. C'est pas possible. C'est pas possible. L'État peut faire certaines choses. Il faut trouver un équilibre. Mais j'ai envie de dire, l'État était quand même un grand élément de civilisation, de police du monde. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Les États ont fait beaucoup de bêtises, ils ont beaucoup d'insuffisances, mais moi, je suis respectueux des États, et je sais que les États sont un grand facteur de stabilité dans le monde, et qu'aujourd'hui, l'État est un peu le bouc émissaire sur lequel on met tous les malheurs de la planète. Et
certains ont parlé du néolibéralisme la semaine dernière, avec Romaric Godin. Certains pensent que l'État, en matière économique, c'est le problème, pour reprendre une définition célèbre.
Non. Ben, tu vois, la déréglementation néolibérale, c'est parce qu'on a démantelé les États. Hein. Donc, il faut trouver, c'est vrai que par moment l'État fait trop de choses. Je pense que l'État français fait trop de choses. Donc il faut trouver un équilibre entre ce que doit faire l'État et ce que doit être laissé au privé. Mais ça suppose une sorte de pacte social entre l'État et les individus. On voit bien qu'aujourd'hui, le pacte social français est en crise. Donc, il faut redéfinir le pacte social, mais il faut le sauver. Il ne s'agit pas de jeter, je répète, de jeter le bébé avec l'eau du bain.
Il y a les États, mais il y a aussi les nations, hein, l'Organisation des Nations Unies.
Oui, mais attendez.
On les oublie un petit peu parfois, les nations.
Alors, le problème, c'est que le concept d'État-nation est un faux concept. L'État, je peux vous dire le nombre d'États. L'État, je prends les Nations Unies, j'ai la liste des à peu près 200 États. Mm-hmm. Les nations, je ne peux pas vous dire le nombre. Prenez un exemple. Est-ce que les Corses sont une nation? Est-ce que les Flamands sont une nation?
Eux diraient oui.
Ah ben, bien sûr, vous avez compris. Non, si vous voulez, j'ai envie de dire, il y a à peu près 200 États, il n'y a pas de problème. Le nombre de nations, est-ce qu'il y en a 200, 1000, 2000? Mais prenez un exemple, même la France, ce qui était une forme d'État-nation, il y avait, eh ben, c'est vrai qu'en France, il y a un phénomène alsacien, il y a un phénomène corse qui fait que la France est aussi un État multinational. Je le regrette, hein, mais c'est comme ça. Donc, donnez-moi un État mononational. Il y en a un qui prétend mononational, c'est le Japon. Mais le Japon est complètement fermé à l'immigration, premièrement. Et le Japon oublie une chose, c'est qu'il y a pas mal de Coréens. Donc il y a quand même un problème de minorité au Japon, qui sont les Coréens.
Merci Philippe Moreau-Desfarges. Les auditeurs ont pu remarquer votre enthousiasme légendaire dans vos propos. Vous venez d'écrire Une histoire mondiale de la paix chez Odile Jacob, un livre que je recommande. Merci,
merci
d'être venu commenter l'actualité avec nous. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine Idées. Nous parlerons du monde intellectuel en France aujourd'hui, avec Jean-Marie Durand qui vient d'écrire un livre passionnant sur ce vaste sujet dans un pays qui est supposé aimer les idées. Demain, Idées, donc dimanche 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.